Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toutes les semaines toute l'actualité du jeu vidéo. On parle de consoles, d'actu de l'industrie, on décortique les news, on passe derrière les infos et on vous explique tout ce qui se passe, même les jours fériés où Twitch est totalement déserté, puisque clairement les gens regardent Twitch pendant leur journée de boulot et le reste du temps, ils ont mieux à faire. Mais comme le dit Saucedo sur Twitch, ils restent les meilleurs et c'est ça le plus important. Merci à vous tous de nous suivre là. Il y a avec moi, je suis Patrick Béja, hein, comme d'habitude, je suis de retour dans l'émission, je suis de retour aux commandes. Ça y est, c'est terminé les conneries. Je vais pouvoir agiter mon fouet pour que tout se passe exactement comme je le veux. Merci bien sûr à Jika d'avoir animé l'émission pendant mon absence, pendant mon congé paternité, semi-congé paternité, et aux Slackers aussi qui nous ont donné un épisode bonus fort sympathique. Donc merci à vous tous d'avoir tenu les rênes, mais je suis là et maintenant ça va marcher au pas, je vous le dis messieurs dames. Et quand je dis messieurs dames, je pense spécifiquement à Escarina qui est là encore avec nous. Comment ça va Escar?
Ça va, j'ai un peu les dents qui claquent après ce que tu viens de dire. Mais tout va bien. Écoute, là, on entame un week-end de 4 jours en France. Il fait un temps absolument merdique. Il pleut. Il fait gris. Mais c'est pas grave. On en profite quand même pour se reposer et puis passer du bon temps ici ensemble.
Merci, merci. Je suis très flatté et je suis d'autant plus flatté que tu m'avais dit, en fait, il y a une semaine ou 10 jours que c'était un jour férié aujourd'hui. Et tu sais, j'ai pas du tout, ça a pas percuté, mais du tout, c'était genre, ah, jour férié, mais c'est comme si je l'avais pas entendu. Donc, je te remercie d'avoir quand même été là pendant un jour férié.
Toi, tu travailles tous les jours de l'année, il n'y a pas de jour férié pour toi, Patrick.
Oh, bah oui, non, mais c'est exactement pour ça. En fait, tu sais, quand je me suis rendu compte que c'était un jour férié, vraiment, ce que ça voulait dire? Je suis sûr que
quand il y avait 3 personnes sur ton live.
Non, c'est pas ça. Il y a un peu ça aussi. Bon, on est un petit peu plus, quelques dizaines. Mais non, c'est quand en fait, ma femme m'a dit « Ah, mais tu sais que demain, il n'y a pas de crèche. Le petit est à la maison. » Et là, ça fait « Oh merde, c'est un jour férié. » C'était la panique qui a commencé à s'installer. Je le note parce que beaucoup de gens ont réagi sur Twitter. Il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire pas très gentil en disant « Ah, oh, il parle tout le temps de ses enfants. C'est vraiment genre entre les pubs pour Patreon et le fait de parler de ses enfants, le podcast commence à 5 minutes. » Eh bah, bien, écoutez, je parle de ma vie dans mon podcast depuis les tout débuts. Ceux qui me suivent depuis Azeroth.fr ou les débuts du Rendez-vous Tech le savent. Et ça fait partie du charme. Donc, si ça vous plaît pas, c'est peut-être pas le podcast pour vous. Je le dis gentiment en prenant sur moi parce que le commentaire était pas très agréable du tout. Mais les soutiens étaient réels en réponse à ça. Et donc, un autre que je dois remercier de sa présence malgré le jour férié, c'est Christophe Kamikaze. Comment ça va, Christophe ?
Salut, mais ça va très bien. Écoute, merci. Moi aussi, je me suis rendu compte des jours fériés pour la même raison que toi. Hein, j'ai des enfants, donc là, ils sont séquestrés au rez-de-chaussée dans une pièce.
Pour pas la faire cave.
La cave, exactement.
Ils sont séquestrés au rez-de-chaussée dans une pièce, tu sais. Le moyen de dire la cave sans dire la cave, très très bien.
C'est Harry Potter, en fait.
Voilà.
Et oui, sous l'escalier.
Et du coup...
Et merci pour l'invitation.
Mais avec grand plaisir. C'est la première fois que tu participes au rendez-vous jeu. Tu as déjà été dans le rendez-vous tech à plusieurs reprises, mais c'est la première fois que tu es dans le rendez-vous jeu. Est-ce que, pour le coup, tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas?
Mais avec grand plaisir. Alors, vous m'avez vu effectivement entendu dans le rendez-vous tech, parce qu'effectivement, je parle un peu de tech dans une autre émission aussi. Je fais partie du groupe Studio Renegade. On a plusieurs émissions, en fait, on officie sur Twitch essentiellement. Et donc, j'ai une casquette, effectivement, avec l'émission Beats pour parler de tech. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le jeu vidéo. Et donc, j'ai une casquette un peu plus ancienne où je parle de rétro gaming dans une émission qui s'appelle Retro Gaming Bros. Voilà, que vous pouvez retrouver sur, en live sur Studio Renegade ou sur YouTube ou Instagram aussi. On a Instagram, Retro Gaming Bros. Vous regardez et puis... Il y a des belles images, des belles photos.
Et c'est super parce que tu as réussi à trouver un jeu qui est à la fois dans la case rétro et dans la case actualité pour nous parler de ton jeu du moment. Donc, je ne vais pas dévoiler duquel il s'agit, mais je trouve ça très, très fort. Ça colle parfaitement dans les deux. On va aussi vous parler des résultats financiers, mais vous le savez, dans mes émissions, on parle uniquement des trucs intéressants dans les résultats financiers. Et il y a eu des choses très intéressantes qui ont été annoncées ces derniers jours. On va aussi parler de nos jeux du moment, bien sûr, d'annonces et de dates pour différents jeux, certains un petit peu surprenants. Et en fin d'émission, pour ceux qui sont patriotes, on aura un after show et je propose aux patriotes qui pourront participer, qui sont patriotes au niveau de participation au Discord privé, de faire un petit passage sur nos envies, nos prédictions, nos rêves pour l'E3 qui est là dans un mois, dans moins d'un mois. Donc ça arrive et on va peut-être passer un petit moment entre nous comme ça à discuter de ce qu'on veut voir pour l'E3. Ça sera un petit moment sympa communautaire pour les Patriotes. Donc ça sera après l'émission normale. Mais du coup, ça me donne l'occasion de remercier les Patriotes qui soutiennent l'émission. C'est grâce à eux que l'émission existe. Donc je remercie spécifiquement Alan Moirier, Hervé Ranchin, Flavien Virgile, Patrick Ballory, très très beau nom ce Patriote-là spécifiquement, Alexandre Ladoux, Gabriel. Merci à tous de participer à la production de l'émission et en particulier le producteur de l'épisode d'aujourd'hui. C'est encore plus lui qu'on peut remercier pour avoir cet épisode spécifiquement, c'est Stéphane Grégory Sata, qui est producteur du Rendez-vous Jeu et du Rendez-vous Tech. Donc un grand merci à lui et à tous ceux, bien sûr, qui soutiennent le Rendez-vous Jeu. Alors, on va commencer avec un sujet qui revient régulièrement, c'est le sujet des résultats financiers et une news en particulier qui est sortie de la conférence d'Ubisoft qui a fait beaucoup de bruit parce qu'elle a été mal interprété, puis réinterprété, puis recontextualisé. C'est au cours de la conférence des actionnaires d'Ubisoft qu'on a entendu qu'Ubisoft allait, entre guillemets, arrêter de faire autant de triple A et se concentrer plus sur les free-to-play. Alors, c'est intéressant à plus d'un titre. Je rétablis la vérité, ou en tout cas ce que je semble comprendre comme la vérité d'après tout ce que j'ai lu, et j'ai lu pas mal de choses sur le sujet. En fait, il y a vraiment eu une mauvaise interprétation. C'est pas qu'ils font moins de triple A, c'est que les triple A veulent représenter une part moindre de leurs revenus par rapport aux free-to-play, sur lesquels ils font effectivement plus mettre la pédale accélérée, ils vont plus accélérer, parce que les free-to-play représentent de plus en plus du volume de revenus. Donc, ils ne vont pas forcément faire beaucoup moins de AAA, mais ils prévenaient les actionnaires que les free-to-play allaient représenter plus des revenus, de la même manière que ça s'est produit pour d'autres sociétés. On a notamment des informations sur Apex Legends pour EA, sur lequel on reviendra dans un instant. Mais d'une manière générale, c'est l'annonce que Ubisoft a un certain nombre de free-to-play qui vont représenter beaucoup de revenus et il prévenait les actionnaires. Donc, si vous avez vu des gros titres sur ce sujet, il faut bien le comprendre dans ce contexte. Et les autres informations qu'il donnait, je prends quelques extraits du très bel article de Gamekult sur le sujet qui fait des points écho sur tous ces sujets-là. Mais ils disent Ubisoft a un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros pour un bénéfice de 289 millions et c'est beaucoup plus que l'année précédente parce qu'évidemment l'année précédente on s'en souvient il y avait eu des reports et des ratages comme Ghost Recon Breakpoint. Mais c'est, si vous voulez un ordre d'idée des revenus de ces sociétés, sur l'année c'était 2,2 milliards d'euros, c'est quand même pas rien et c'est une grosse année pour Ubisoft, pas la meilleure mais une grosse. Le chiffre beaucoup plus intéressant que ça encore, c'est une confirmation de ce que représente le dématérialisé. C'est plus de 70% de son chiffre d'affaires total qui est en dématérialisé. Alors bien sûr, là, on inclut tout le dématérialisé et ça peut s'expliquer en partie par la pandémie et le fait que les gens soient restés à la maison. Mais il n'empêche, c'est une accélération de la tendance et dont une partie va peut-être rester même après le retour à la normale qu'on peut espérer dans quelques années ou une année, quelques mois ou une année. Les achats en contenu additionnel et en abonnement représentent 35% du total. Donc là encore, on a les jeux les ventes de jeux qui représentent 65%, et rien que sur les DLC, les microtransactions, les abonnements à Uplay Plus, etc., c'est 35% du total, c'est quand même important. Et le dernier chiffre que j'avais trouvé intéressant, c'est le nombre de joueurs actifs qui est de 141 millions, c'est-à-dire que Ubisoft a 141 millions de joueurs actifs dans son écosystème. On parle généralement de joueurs actifs mensuels. Donc chaque mois, il y a 141 millions de joueurs différents qui se connectent à leur jeu. C'est quand même pas rien. Voilà pour les chiffres Ubisoft. Est-ce que ça vous inspire quelque chose à tous les deux? Christophe, peut-être, qui est habitué des chiffres dans la tech aussi. Qu'est-ce que vous dites de tout ça?
C'est impressionnant, 141 millions monthly active users, si on fait la parallèle avec ce qu'on peut trouver sur les applications, c'est assez impressionnant. Après, il ne faut pas oublier que cette année-là est particulière aussi. Hein. Confinement oblige, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup plus joué aux jeux vidéo, on sait que l'industrie s'y a bien profité de cette période-là, mais malgré tout, ils sont, c'est impressionnant comme chiffre, ouais. Clairement.
C'est sûr.
Oui. La question que je me pose, moi, tu vois, c'est justement, on parle du contexte. Est-ce que ce contexte-là, il va instaurer de nouvelles habitudes et donc c'est un chiffre qui va se stabiliser, voire continuer à croître? Ou est-ce que quand toutes les restrictions vont tomber, au contraire, les gens vont totalement beaucoup plus se détacher, on va dire, du virtuel? Parce que je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais eu autant envie de sortir et de voir mes potes alors que je me considère quelqu'un de très... pas asocial, mais j'adore rester dans mes pantoufles à jouer aux jeux vidéo. Et tu vois, là, je me dis que t'as un changement de paradigme psychologiquement, ouais, qui s'opère chez moi, et chez beaucoup de gens. Je me demande comment ça va se passer ensuite, quoi.
Moi, je suis un petit peu un ermite, donc je suis pas la bonne personne pour porter des jugements là-dessus. Mais moi, je suis très content chez moi tout seul. Je me suis rendu compte que j'aime tellement faire des podcasts et être sur Twitter et tout ça, parce que ça me permet d'avoir des interactions avec les gens, mais on my terms. Tu sais, c'est moi qui décide. Si j'ai pas envie, je suis le pire ermite qui soit. Mais ceci dit, je crois qu'il y a deux choses notables. Oui, le temps passé va peut-être redescendre un petit peu une fois que les restrictions seront levées. Ça, c'est possible. Je crois par contre que pour ce qui est des achats, les achats en ligne, ça a peut-être installé des habitudes qui vont moins faire le rebond.
Ouais. Les gens sont peut-être rassurés.
C'est ça. Peut-être. Enfin, disons qu'il y a les achats en numérique qui sont une certaine chose, et puis il y a les achats en commandé qui sont une autre chose. Je crois que les gens se sont plus habitués à ces deux choses-là. Aller acheter des jeux chez Micromania, je crains que ça soit un truc, pas du passé bien sûr, mais la part va encore se réduire. Disons que c'est une accélération, je pense, de la tendance. L'autre truc évidemment intéressant, c'est cette histoire de free-to-play. Même si les gens ont un petit peu exagéré la portée de ce qu'avait dit Ubisoft, je pense que la tendance est claire, et c'est intéressant de voir que Ubisoft ne baisse pas les bras malgré les échecs de certains jeux. Enfin, peut-être qu'il est facile de noter... comment il s'appelle ce jeu qui est sorti pendant l'été, ce Battle Royale un peu néon, très fast FPS. On a déjà oublié le nom.
C'était pas Valorant ? Non, c'était pas...
Non, Valorant, c'est Riot et c'est un FPS et pas un Battle Royale. Comment il s'appelle ? Aidez-moi !
Oui, ça va me revenir.
Je ne me souviens plus. Pardon ?
Chez Ubi ?
Oui, chez Ubi, ils ont eu un FPS.
Hyperscape,
merci, tu as réussi avant la chatroom. C'est bien ça, Hyperscape. Donc, il y a clairement été un échec, mais ça ne les arrête pas, ils vont continuer. Et puis, quand je dis ça a été un échec, ils ont quand même une quantité de jeux qui sont plus ou moins free-to-play, qui continuent leur croissance. Ils ont noté dans les mention croissance robuste avec des jeux, enfin il y a des jeux comme For Honor, The Crew, Lapin Crétin, Brawlhalla, plein de jeux dont on n'entend pas énormément parler. Enfin, si For Honor dans une certaine
Brawlhalla,
c'est pas un aussi gros succès que Rainbow Six Siege qui casse tout, qui est dans les 10 jeux les plus joués de l'industrie en 2020, mais clairement il continue son petit bonhomme de chemin, alors que franchement pour le public général on a l'impression qu'il n'existe plus. Christophe, tu as l'air de take issue, de ne pas être d'accord avec ce que je dis sur ça.
Non mais En fait, je me rends compte, parce que du coup, on parlait des enfants au début, mais donc je commence à avoir un enfant qui est dans la tranche d'âge pré-ado, tu vois, qui a 12 ans, et il y a des jeux de génération, vraiment, je le vois. Et je suis confronté à ça. Et tu vois, il y a des jeux, on ne se rend pas compte, tu vois, tu l'as balayé très rapidement, mais Brawlhalla, pour les gamins de 12 ans, ça prend énormément de place. C'est ce genre de jeu que, pour eux, ils sont la cible et ils en parlent énormément avec ses copains.
C'est comme on parlait de Roblox la dernière fois, qui fait des chiffres de fou furieux, et nous...
Ouais. Mais c'est ça me passe au-dessus. Roblox, c'est un petit peu particulier comme type de jeu. C'est une sorte de mélange entre, je sais pas, Minecraft et un fabricateur de jeux.
C'est des
modes, ouais, Minecraft et Dreams, exactement. On peut faire des jeux et faire de l'argent sur ces jeux. Enfin bref, c'est tout un monde. Mais Brawlhalla, c'est un jeu vidéo au sens classique. Et Brawlhalla, en fait, c'est Super Smash, mais pas fait par Nintendo, et donc sur toutes les plateformes. Et ils l'ont racheté quelques temps avant la sortie du jeu, Ubisoft, et clairement, et c'est donc Brawl, parce que c'est comme Super Smash Brawl, et c'est clairement une copie du truc. Et donc, tu me dis, mais tu me dis que une certaine tranche d'âge est à fond sur Brawlhalla, en tout cas, une partie.
Oui, oui. En fait, quand tu regardes le catalogue de jeux des grosses licences qu'ils ont, tu vois qu'ils ratissent assez large en fait en termes de goût vidéoludique, on va dire, mais aussi de génération. Et ça, je m'en rends compte que parce que j'y suis confronté. Sinon, tu vois, ça me passerait au-dessus parce que je me dis c'est pas un jeu pour moi, ça m'intéresse pas. Mais en fait, il y a un vrai public derrière.
Je crois que Brawlhalla est free to play. Je me trompe peut-être. Peut-être que je me trompe en fait. Je sais pas. Mais il rentre complètement dans cette catégorie. Tu vois, je mentionnais. Oui, pardon.
Il est free-to-play, même.
Ouais, effectivement. Mais il rentre dans cette catégorie. For Honor, il n'est pas free-to-play, ou peut-être qu'il y a une composante... Si, il y a une composante free-to-play, effectivement. Et For Honor, je m'y suis intéressé parce que c'est un jeu qui me parle, moi. C'est une sorte de jeu de combat en jeu de mêlée. Enfin, avec il est vraiment, vraiment sympa. J'aurais pu complètement y plonger beaucoup plus de temps. Mais donc, ça, je le connais parce que moi, je m'y suis un petit peu intéressé. Mais là, il parle, par exemple, de Lapin Crétin. Enfin, Lapin Crétin, depuis le dernier jeu qui était un jeu, le Mario et les Lapins Crétins, je crois. J'en ai pas vraiment entendu parler. Visiblement, c'est croissance robuste. Alors, c'est le genre de mention qu'ils ne peuvent pas faire sans qu'il y ait quelque chose derrière. Et pour moi, Lapin Crétin, ils étaient pas en croissance robuste, quoi. Il y avait rien du tout derrière. The Crew, pareil. Qui joue à The Crew aujourd'hui ? Bah, clairement, il doit y avoir une communauté, alors peut-être pas suffisamment grosse pour qu'on en parle dans tous les épisodes, mais c'est vraiment intéressant de voir que Ubisoft continue sa tradition de soutenir les jeux qui ont une forte communauté, même s'ils ne sont pas sur le devant de la scène. Donc, c'est notable et ils vont continuer dans le domaine du free-to-play, visiblement. On peut parler, en continuant à parler de free-to-play, je ne l'ai pas mentionné, mais ils ont aussi annoncé l'arrivée de plusieurs jeux sur la licence The Division. Il y aura un free-to-play, donc on en parlait, un jeu sur mobile, et il y aura aussi des trucs cross-média avec un film et un roman qui vont arriver. Mais donc un free-to-play et un jeu sur mobile avec la licence The Division. On peut imaginer qu'ils chassent Call of Duty mobile parce qu'il fonctionne très très bien, et puis le free-to-play, je ne sais pas si ça sera un Battle Royale, j'imagine que non parce qu'il y a quand même il y a un embouteillage sur les Battle Royale, mais ils cherchent sans doute à faire fructifier ça en free-to-play avec la licence de Division, ce qu'on peut comprendre, et puis le fait que d'autres réussissent aussi bien dans ce domaine avec des gros FPS AAA en free-to-play. Alors on pense évidemment à Call of Duty Warzone et Call of Duty mobile qui fonctionnent tous les deux très très bien, et on peut penser aussi à EA qui avec Apex Legends a généré 1 milliard de revenus. On rappelle que Apex Legends est un free-to-play, hein, bien sûr, mais qu'il continue à fonctionner très très bien. Ils avaient, pendant la saison 8, qui était l'avant-dernière saison, 12 millions de joueurs par semaine. Pas par mois, hein, par semaine, 100 millions de joueurs sur la vie du jeu, rien que sur ce jeu. Alors évidemment, il y en a plein qui ont créé un compte et qui ont joué quelques parties et qui ont arrêté. C'était un petit peu mon cas, mais il n'empêche, 100 millions de joueurs. Et ouais, surtout, pareil, le plus intéressant... Ouais, je me souviens d'ailleurs qu'on avait fait une partie avec Cédric Bonnet et je sais plus, ça devait être Captain Hugues sur...
Oui, sûrement.
Sûrement, en live. Mais le plus intéressant, c'est que le dernier trimestre a été le meilleur trimestre de l'histoire de Apex Legends. Donc, il continue et il continue à progresser sans donner signe de s'arrêter, quoi. Donc, évidemment, ça fait saliver les autres éditeurs. En fait, je dis ça fait saliver les autres éditeurs, mais j'ai l'impression qu'ils ont tous un jeu comme ça, ou presque. Il n'y a que Ubisoft qui est tout seul. Enfin, c'est pas forcément vrai. Il y a Activision, bien sûr, EA avec Apex Legends, Epic avec Fortnite. Ah, Battlegrounds, PlayerUnknown's Battlegrounds, qui est PlayerUnknown's Battlegrounds.
PUBG, ouais.
Et à part ça, je crois Take-Two n'en a pas. Enfin, si, ils ont GTA, donc voilà. Mais
avec GTA ça, Online, ça continue. Hein.
C'est ça, oui. Mais c'est pas tout à fait la même chose, mais bon. Bref, mais tout le monde est content et EA a généré 1,35 milliard sur le trimestre. Donc, c'est un petit peu moins que l'année dernière, les pauvres. On les plaint. Autre sujet de l'industrie, pas vraiment des chiffres, mais des infos qu'on a eues, c'est qui colle un petit peu dans cette catégorie de news. Gears of War, le studio, c'est The Division. Non, si, c'est The Division. Pas The Initiative, je les confonds toujours les deux. Bref, le studio qui fait The Coalition, c'était encore un troisième.
C'est l'inverse de The Division.
Ouais,
The Coalition.
Ça. C'est The Coalition. The Division, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est parce qu'on parlait d'Ubi. Donc,
juste.
The Coalition, qui est le studio qui a repris la série Gears, a annoncé qu'il se mettait un petit peu en retrait parce qu'il passe d'une part à l'Unreal Engine 5 et surtout, dans quelques mois, après les derniers DLC, enfin les derniers contenus pour Gears 5, ils vont passer au développement de plusieurs jeux, mais sur le long terme. Donc, on ne va plus entendre parler d'eux pendant un bon moment, donc ils préviennent. C'est intéressant parce que dans le cadre, évidemment, c'est un studio de Microsoft. Donc, Microsoft a tellement de studios maintenant qu'ils peuvent se permettre d'en mettre quelques-uns en travail sur le long terme. Et puis surtout, on a entendu que Sony était en train de travailler, enfin PlayStation surtout, était en train de travailler sur 25 exclusivités. Alors quand on sait qu'ils ont 12 studios, ça fait beaucoup, mais évidemment on compte dans ces exclusivités des studios avec lesquels ils ont, des studios externes avec lesquels ils ont passé des contrats. On pense notamment à Haven, le studio de Jade Raymond qu'elle a fondé après avoir quitté Stadia. Et il y a parmi ces 25 exclusivités, 12 qui sont des nouvelles licences. Donc, ils ont un bon équilibre là. Ça fait beaucoup, bien sûr, 25 exclusivités. Mais je pense qu'ils ont bien compris que c'est le nerf de la guerre dans le contenu. Il faut des trucs qui sont uniquement chez eux. J'imagine qu'ils comptent des choses comme Final Fantasy XVI, qui va être en exclusivité au moins temporaire sur PlayStation 5, etc., etc. Enfin, sur PlayStation. Mais bon, 25, ça fait pas mal. Ils ont bien compris que Microsoft était en embuscade avec ses 70 000 studios, je crois.
Ça a toujours été une force de PlayStation en général et des jeux sur cette plateforme. C'est les licences fortes comme ça qu'ils avaient et jusqu'aux exclusivités. Mais là, Microsoft, sur cette génération, ils arrivent en force en face. Hein. Ils ont compris aussi qu'ils avaient besoin de ça pour pouvoir se différencier. Ils ont racheté masse de studios, ils commencent à valoriser les licences qu'ils ont pour contrer ça. Donc, ils ont bien fait de réagir maintenant. Alors, il y a peut-être 25 en effet d'annonce aussi pour rassurer les investisseurs. Voilà. Est-ce qu'il y en a 25 qui sortiront ? On ne sait pas, mais au moins, ils sont là, ils ont rien lâché. Ça, c'est bon à entendre. Ouais.
Tant mieux pour nous, hein ?
Tant mieux, c'est sûr. Il y avait eu une petite controverse il y a quelques semaines avec certains développeurs, certains insiders qui parlaient du fait que Sony s'était détourné des indés. Et j'avais trouvé la controverse assez... Je ne sais plus si on en avait parlé dans l'émission, mais j'avais trouvé la controverse un petit peu, comment dire, pas malvenue, mais qu'elle comprenait mal la situation. Je crois qu'il y a vraiment... il a l'air, d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai compris, il y a effectivement pas un abandon, mais un détournement de la grande collaboration hyper solide avec les indés du côté de chez Sony. Ils sont moins à les accueillir avec les bras ouverts. Bien sûr, les indés continuent à mettre leurs jeux sur leur console, c'est évident. Mais je crois que Sony a compris, ils n'ont pas les ressources d'une boîte comme Microsoft, et ils ont compris qu'ils doivent se concentrer sur des trucs et pas s'éparpiller. Et ce qui compte le plus, c'est les grosses exclus. C'est notamment avec Herman Hulst, qui était l'ancien directeur de Guerrilla Games, qui a sorti évidemment Horizon, qui est maintenant à la tête des PlayStation Studios et qui se dit, j'imagine, pour lequel la vision, c'est qu'il faut des grosses exclus, des gros AAA, c'est ça qui va attirer les gens. Et bien sûr, les indés peuvent continuer à venir sur la plateforme. Et d'ailleurs, ils y viendront de toute façon parce que c'est la plateforme dominante. Donc, on n'a plus besoin d'être aussi attentif et aux petits soins. Il faut qu'on se concentre sur ce qu'on sait le mieux faire, ou en tout cas sur ce qui compte le plus. Et je pense que c'est une vision très logique. Il y avait eu une réaction très négative à ces spéculations, et je crois que les gens n'ont pas compris en fait l'importance de la chose. Sony, ce n'est pas Microsoft, ils n'ont pas un portefeuille illimité, ils ont besoin, ils sont pas en danger, mais enfin, ils ne sont pas aussi à l'aise que Microsoft. Pardon, Eska, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, non, je voulais dire, au-delà de ça, est-ce que la PlayStation, aujourd'hui, c'est la meilleure plateforme pour du jeu indé ? Que ce soit en tant que développeur
pour
publier son jeu, mais même en tant que consommateur, moi je sais que je suis une grande consommatrice de jeux indés, c'est pas vers la PlayStation 5, enfin, je vais pas me tourner vers cette plateforme-là pour du jeu indé, je vais me tourner vers cette plateforme-là pour du AAA.
Ouais, bah disons que...
Pareil, tout pareil. Ouais. C'est la Switch, hein, la reine des jeux indés sur cette génération. Hein.
La Switch et puis même le PC, hein.
Le PC, bien sûr, oui, évidemment. Je comparais au niveau des consoles. Il y a un truc que je voulais rajouter. Sur Microsoft aussi, ils ont une particularité aussi au niveau jeu indé, c'est qu'ils sont aussi éditeurs de solutions de développement énormément. Et ils ont toujours dans leur ADN le fait d'aller parler aux développeurs. Et pas que jeux vidéo. Et ça parle aux petits studios indés. Donc, ils ont des moyens de les accompagner. Ils ont l'habitude de le faire, ce que Sony n'a pas habituellement. Et ça, il continue à le faire à côté. Et sur Xbox, sur la 360, il avait fait énormément. C'était une génération où il y avait énormément de choses qui avaient été ouvertes, où les développeurs pouvaient très facilement développer et très rapidement publier des jeux, du coup, sur cette plateforme-là.
Ouais. On est d'accord. Et ça ne veut pas dire que, enfin, dans tous les cas, que ce soit Microsoft ou Sony ou d'autres, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeux indés, évidemment. C'est juste qu'ils se concentrent sur ce qui compte le plus. Et c'est vrai que Microsoft, qui est en position un petit peu plus de challenger, on voit qu'il soigne les indés un petit peu plus parce que c'est un moyen un peu facile à accomplir d'attirer du monde.
Bref. Mine de rien, je pense aussi que le Game Pass s'est fait une notoriété grâce aux jeux indés. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont tournés vers la solution du Game Pass parce que c'était aussi une belle plateforme de jeux indés.
C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà pour nos sujets, nos discussions sur les résultats, en gros, les résultats financiers. Et je réponds à Altcon dans la chatroom. Housemarque est un studio indé, effectivement. Je crois que j'avais dit que c'était un studio PlayStation. Ce n'est pas le cas, c'est un studio indé. Et donc, ça montre bien qu'ils peuvent travailler avec des studios indés. Et ils le font. Ils financent même des choses assez solidement du côté des indés. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de jeux indés.
Juste un dernier truc que je voulais rajouter sur Ubi, si tu me permets. Il y a un truc quand même qu'il ne faut pas oublier, c'est que, parce que là, on a comparé les chiffres entre Ubi et EA, donc EA est très largement au-dessus, évidemment, mais Ubi, il ne faut pas oublier la croissance. Si tu regardes les années passées, c'est faramineux. C'est-à-dire qu'on regarde les résultats cette année, mais si tu regardes les années passées, tu regardes les 6-7 dernières années, ils ont fait une croissance phénoménale, et notamment en termes d'effectifs. Ils ont ouvert de nouveaux studios, ils ont recruté à tour de bras. Ils ont, je crois, plus que triplé en moins de 10 ans les effectifs, ce qui est colossal à leur niveau. Donc rien que ça, c'est déjà une belle réussite. Hein.
Ouais, d'accord. Ouais. Eh bien, écoutez, je vous propose de faire une toute petite pause très rapide pour vous parler de quoi ? De Patreon. Qu'est-ce que c'est que Patreon ? Eh bien, Patreon, c'est le moyen de financer, de soutenir l'émission, de faire en sorte que l'émission existe. Vous savez que quand on fait cette émission, c'est quand même pas mal de travail. Et j'espère, c'est un bon moment que vous passez avec nous, qui est en plus un moment où vous apprenez des choses. Donc, si on réussit à vous faire passer un bon moment et à vous apprendre quelques trucs, quelques angles différents sur la manière de comprendre ce qui se passe dans l'industrie, si on vous fait remonter des infos intéressantes auxquelles vous n'aviez pas forcément que vous n'aviez pas forcément vu passer, j'espère que ça vous incitera peut-être à vous demander bah tiens, peut-être que ça vaut un petit euro tout ce travail qui est fait, peut-être un petit euro, et du coup vous allez sur patreon.com/rdvjeux. Et non seulement vous avez le moyen de soutenir l'émission et de devenir une personne absolument héroïque qui participe à la, au fait que l'émission puisse exister, mais en plus de ça, vous pouvez avoir des bonus super sympas, comme le fait de ne pas avoir de pub dans l'émission. Vous avez non seulement pas de pub, mais en plus pas ce petit laïus en milieu d'émission, parce que vous êtes déjà patriote, donc pas besoin de l'entendre en plus. Mais vous avez aussi l'after show. Aujourd'hui, on va parler de nos espoirs, nos envies pour l'E3 dans l'after show avec les, la communauté des auditeurs, des patriotes de l'émission. Vous avez aussi des petits conseils contenu en plus, des éditos, des choses comme ça, et plein d'autres choses. Donc, si vous appréciez le rendez-vous jeu, je vous encourage, je vous remercie d'aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/rdvjeu. Vous allez dans les notes de l'émission, le lien est directement là-dessus, ou alors simplement patreon.com/rdvjeu. Et si vous êtes déjà en train de profiter du déconfinement progressif, sachez que quand vous rentrez à la maison et que vous faites les bols dans le, les clés dans le bol, et pas les bols dans le clé. Les clés dans le bol, ça fait cling, et là vous dites « Ah, Patrick, j'ai failli oublier de, d'aller voir sur patreon.com/rdvjeux. » Mais heureusement, comme j'ai mis les clés dans le bol et que ça a fait cling, Patrick, eh ben je vais aller voir sur patreon.com/rdvjeux, sur votre téléphone, sur votre PC, ce que vous voulez. C'est super rapide, ça prend 2 minutes, vraiment, même sur le téléphone, et vous pouvez de cette manière contribuer à cette émission que vous appréciez. Un grand merci à tous ceux qui le font déjà et à ceux qui pensent à le faire à la suite de cet épisode. patreon.com/rdvjeux.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Alors, de quoi on parle maintenant ? Ben parlons un petit peu de nos jeux du moment. Je crois que c'est un petit peu calme quand même ces jours-ci, ces semaines. Eska, j'ai l'impression que tu n'as pas vraiment de nouveautés intéressantes que tu voulais évoquer ?
Non, j'avais parlé de Loop Hero la semaine dernière avec toi et JK. Là, j'ai réactivé un abonnement Game Pass de 4 mois. C'était un cadeau d'anniversaire qu'on m'avait fait, un petit pass de 3 mois. J'ai eu le droit à un mois bonus parce que je pense que Microsoft distribue ça comme ouais. Des petits pains.
Venez, venez, c'est bien, c'est cool ici. Venez, on a la porte ouverte. Il y a les bières dans
le frigo. Tiens, tu t'es pas réabonné. Allez, tiens, prends-toi 3 mois gratuits.
C'est ça.
Et donc du coup j'ai téléchargé une grande partie parce que j'avais pas assez de disque dur des jeux que j'ai loupé ces derniers mois. Je suis en train de me faire une session de rattrapage là, donc j'ai pas mal de petites choses qui m'attendent, notamment Haven qui était sorti à un moment de ma vie où c'était pas, j'avais pas trop de dispo pour jouer, donc je compte bien le refaire. Qu'est-ce que j'ai téléchargé d'autre? J'ai téléchargé Prey, j'ai téléchargé Star Wars Squadrons et Call of the Sea. Donc voilà, j'ai mon petit backlog de rattrapage de jeux.
Très bien.
À venir.
Je mets en illustration la page en finnois de Xbox Game Pass. Comme ça, les gens qui sont sur Twitch peuvent voir ce que ça donne en finnois. J'espère que vous êtes contents de cette petite illustration.
Tu parles un peu finnois, Patrick, ou pas du tout ?
Pas du tout. Moi, je parle suédois parce que ma femme est suédophone. La Finlande est bilingue. Et ma femme fait partie de la minorité suédophone. Et heureusement, parce que le finnois, c'est très, très, très compliqué. Le suédois, un petit peu moins. Donc, je parle suédois. Jag pratar svenska.
Ouais,
finska jättesvårt. Så jag vill prata svenska istället. Voilà. Bon, on va enchaîner. J'ai joué à Destiny 2. Enfin, non, il y a un autre jeu auquel j'ai joué qui s'appelle Couche et Biberon. Mais je crois que ça intéresse moins les gens, surtout dans la partie un petit peu hardcore où ça commence à devenir des cris et des couches et des biberons. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les enfants pleurent, les bébés pleurent. En fait, pas du tout. Les bébés ne pleurent pas. Les bébés crient. Il faut le savoir. Les bébés crient, ils ne pleurent pas. Et donc...
C'est un roguelite, ça, parce qu'en fait, tous les jours, tu recommences pareil, la même chose.
C'est ça. Tu dis un petit peu meilleur, mais c'est trop peu pour que ça soit sensible. On me demande dans la chatroom si c'est un jeu en VR. C'est même plus qu'un jeu en VR. On parlera de VR dans un petit moment. Mais oui, c'est même plus que de la VR. C'est un jeu en R. Tu vois, c'est un jeu en réalité.
Parce qu'en plus, t'as les odeurs.
Ah ouais.
Les,
non, mais...
les projections liquides, les trucs comme ça, quoi.
C'est plus que la matrice. Hein. C'est totalement fou. Et donc, j'ai joué à Destiny 2, toujours, comme je le disais la semaine dernière. La nouvelle saison a commencé. J'ai moins joué que j'aurais voulu, parce qu'il y a eu des crises. Mais bon, c'est toujours sympa, Destiny 2, voilà.
Et tu allais dire, donc, c'est toujours sympa, les crises.
C'est ça, je ne m'en parle pas. Et donc... on arrive à une personne qui a vraiment... Mais c'est vraiment calme. Hein. On a parlé de Resident Evil 8 la semaine dernière. Donc, c'est vraiment une période un petit peu calme en ce moment. On sent potentiellement le temps qu'a... Enfin, les problématiques qu'ont posé le confinement et le travail de la maison l'année dernière. Parce que là, on a vraiment très peu de jeux qui sortent, hein, et peu d'annonces et peu de choses. Donc, le 3 arrive en tout cas. Peut-être qu'un jour, je vous parlerai de Yousician. Tiens, c'est pas un jeu, mais tiens, je vais juste en dire un tout petit mot tout de suite. Yousician, c'est une app sur iPhone, iPad, etc. qui... Vous connaissez, vous vous souvenez de Rock Band, évidemment. Rock Band, vous connaissez.
Oui, bien sûr.
Eh bien, Yousician, c'est Rock Band pour de vrai. C'est-à-dire que vous avez une guitare ou un ukulélé. Moi, j'ai acheté un ukulélé. Tenez, je peux vous l'amener ici.
Hop. Allez, c'est l'instant pause musical.
C'est l'instant pause.
Ce que j'allais dire, on change le podcast, là.
Non, mais j'ai acheté un ukulélé. Je pensais... je pensais avoir le temps d'y jouer un petit peu. J'ai joué un petit peu pendant quand elle était encore calme, la petite. Mais tout ça pour dire que j'ai commencé à apprendre à faire du ukulélé avec Yousician. Alors, ça coûte un peu cher, hein, c'est un abonnement. Mais c'est vraiment Rock Band pour de vrai. C'est-à-dire que ton téléphone ou ton iPad apprend écoute ce que tu joues et te dit si tu as joué la bonne note au bon moment, et ça t'apprend de manière hyper pédagogique les accords, tout ce que tu dois savoir pour jouer de la musique. Il y a des gens qui m'ont recommandé un truc qui s'appelle Populélé, qui est un ukulélé connecté, et je suis sûr que c'est très bien aussi, mais vraiment, avec cette app, on n'en a pas besoin parce que ça fait tout. Et pourquoi j'en parle maintenant ? Parce que c'est vraiment le principe de Rock Band, mais en vrai. Ça marche pour les guitares, les ukulélés, les pianos, etc. Et c'est assez fou. Et donc, si vous avez toujours rêvé d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, je pense que c'est une méthode. Alors, c'est peut-être pas aussi bien que d'avoir un prof, mais c'est évidemment beaucoup moins cher que d'avoir un prof. Et ça marche super bien. Donc,
Moi, il y a un truc qui me... Je me pose toujours une question, parce que moi, j'ai fait de la musique étant jeune. Et ce genre d'application, c'est un petit peu, tu sais, comme les trucs comme Rocksmith, tout ça. J'ai toujours peur que, en fait, tu fasses du mimétisme, mais sans comprendre ce que tu fais. C'est-à-dire que tu apprends par cœur un pattern, mais sans vraiment comprendre ce que c'est que de jouer un instrument de musique. Tu vois, t'approprier, cette note-là, c'est un do, cette note-là, c'est un ré. Pour faire un accord, il faut faire comme ça. Lire une partition. Ce genre de choses.
Oui, dans une certaine mesure, mais c'est quand même mieux que rien. Et si tu veux apprendre à gratter un petit peu comme ça pour le plaisir, ça fonctionne. Si tu vois, moi, je vais pas devenir Jimi Hendrix, quoi. Je m'en fous. C'est juste que je veux savoir faire trois petits trucs. Je suis un petit peu âgé. J'ai beaucoup de choses à faire, je suis très occupé. Ce que je veux, c'est juste un petit peu le plaisir de gratter le ukulélé. C'est pas vraiment d'apprendre tout à coup à devenir un concertiste, tu vois.
Ouais. Donc, c'est pour ça que je trouve que t'as une limite. Pour moi, c'est pas, t'apprends pas vraiment à jouer d'un instrument de musique, tu apprends à répéter un morceau sur un instrument. Tu vois ce que
oui et non, franchement.
De toute façon. Les guitaristes ne sont pas des vrais musiciens, on peut se le dire quand même.
Les bassistes, c'est les pires.
Les bassistes, c'est les pires, voilà.
Non, mais tu sais, je sais pas, moi j'ai fait genre 10 leçons, donc je peux pas dire, mais j'ai l'impression quand même que tu apprends, les exercices sont très bien foutus pour t'apprendre, passer d'un accord à un autre, etc. Mais la raison pour laquelle j'en parle, l'idée c'est pas de parler sur l'apprentissage de la musique, c'est presque un jeu vidéo. Et c'est une approche un petit peu différente de la philosophie rock band. Donc, musician comme you et musician. Donc voilà, c'est très, très sympa.
C'est du serious gaming. T'as du reward dans le jeu, enfin, je veux dire, est-ce qu'ils ont mis en place des boucles de feedback ou de gameplay ou des niveaux que tu gagnes, des choses comme ça?
Un petit peu, il y a des niveaux que tu gagnes, il y a des certificats, mais c'est vraiment plus le plaisir de découvrir des nouveaux trucs, c'est vraiment le plaisir de faire des nouveaux, au début c'est hyper simple, mais de faire des nouveaux tracks plus durs, tu vois. Donc
ça coûte combien du coup
l'abonnement, si tu t'abonnes en mensuel, c'est genre 30 euros par mois. Et c'est moitié prix si tu prends un an, parce qu'ils savent que les gens s'abonnent sur un coup de tête et puis ils jouent trois fois et s'arrêtent. Mais ouais, c'est cet ordre de prix.
C'est et moins du cher coup, qu'un à quand le À quand le concert des Béjas Brothers? Parce que
mon frère, si tu veux, je préviens. Mon frère, il est quand même à un autre niveau. Hein. Mon frère, c'est un grand musicien. Il fait du jazz manouche c'est pas comme un pro. Il est très très pauvre. Il est il est un excellent musicien. Donc, si tu me donnes, on va dire, une vingtaine d'années, peut-être que je pourrais faire deux accords pendant que lui il joue. Quelque chose comme ça. Bon, ça suffit de parler de musique. De quoi est-ce que tu nous parles, toi, maintenant que le suspense a assez duré? De quoi est-ce que tu nous parles, Christophe?
Alors, moi, je vais vous parler d'un nouveau jeu, mais qui est en fait un vieux jeu, parce que c'est une vieille licence qui est ressortie, une nouvelle version, c'est R-Type Final 2, R-Type Final 2, qui est sorti un petit peu partout. Il est sorti cette semaine, d'ailleurs. Donc R-Type, la licence, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un shoot'em up, donc un petit jeu avec des vaisseaux, tu fais piou-piou-piou, tu tires partout. Shoot'em up horizontal, donc on se déplace de gauche à droite. C'est une vieille licence, il est sorti dans les années 80, je crois, fin des années 80, 87 par là, sur arcade et sur les consoles du moment. Et il avait fait grand bruit à l'époque parce qu'il renouvelait un petit peu le gameplay, c'était un peu ronronnant à l'époque, cette partie shoot'em up avec des licences comme Gradius, etc. Et il a apporté quelques nouveautés.
Dis pas de mal de Gradius, s'il te plaît, attention.
J'en dis pas de mal, au contraire, je suis grand fan aussi. J'ai encore la cartouche avec la NES à côté de moi. Et oui, ce qu'il a apporté comme nouveauté, c'était notamment le fait que tu aies un module à côté de toi. Donc, tu as un greffon que tu peux mettre à l'avant ou à l'arrière de ton vaisseau, que tu peux lancer et un petit peu contrôler ou rappeler vers toi. Donc, ça, c'était assez nouveau. Et évidemment, donc cette nouvelle version du jeu garde ces principes-là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, il y a vraiment, on va retrouver le même cœur du gameplay. Je vous aime pas des films en horizontal, avec les différentes upgrades pour tirer, le module que tu peux lancer devant toi. Il est entièrement en 3D cette fois. Alors, en 3D, en termes de rendu, ça reste par contre une vision projetée, donc une vision
c'est
2D.
En 2D, c'est quoi. Le rendu est en 3D, oui. Mais le gameplay est en 2D. On est sur
exactement, merci. C'est ça, on est sur un blanc. Alors, des fois, tu as des rotations qui se font dans les niveaux. C'est pas mal, mais c'est la rotation du décor, hein, globalement. Voilà, donc tu as des upgrades. Tu peux commencer avec. Tu as le choix entre plusieurs vaisseaux. Tu peux en débloquer des nouveaux. Tu peux les customiser. Tu as pas mal de choses qui sont rajoutées autour de ça. Tu peux débloquer aussi des images de fond que tu peux mettre après ou customiser ton jeu. Mais ça reste très anecdotique, en fait. Si on parle du cœur du gameplay, en fait, ceux qui sont fans de la licence ne vont pas être perdus. Ça ressemble énormément à ce qu'on connaît déjà.
Pour clarifier, Christophe, c'est pas un remake, hein, c'est un nouveau jeu. R-Type Final, c'est une suite à R-Type. Et là, c'est le 2 de la série R-Type Final, on est d'accord?
Exactement. Oui, c'est pas un remake, hein, tu as tout à fait raison. Il y a eu R-Type Final avant sur c'était PlayStation, je crois. Donc là, non, c'est un nouveau jeu canonique de la licence, on peut dire. Et puis c'est des anciens du studio original, hein, qui ont participé au développement, donc c'est Grand Zella qui l'a fait. Donc ils connaissent un petit peu le cœur du jeu, ils font pas un peu n'importe quoi avec. Donc la licence est respectée, visuellement c'est joli, même si moi je suis plutôt fan du pixel qui tâche, pixel bien carré mais lumineux. Là on est vraiment dans de la 3D bien lisse, avec des effets de lumière qui sont sympas. Est-ce que je peux te dire de plus sur le gameplay, je suis plus dubitatif en fait. Je trouve que ça manque. Ouais, c'est dommage parce que c'est le cœur du jeu et je trouve que. Alors j'ai fait la moitié du jeu à peu près. Donc tu retrouves les niveaux. T'enchaînes, il y a 6 ou 8 niveaux que tu peux. Donc c'est des niveaux où tu avances avec plusieurs vagues d'ennemis en fait que tu élimines. Tu as des upgrades, des power-ups que tu peux récupérer en cours de niveau et à la fin tu as un gros boss à battre. Soit le gros boss, c'est des patterns à apprendre hein, très souvent. Ils sont relativement faciles à lire, on va dire, au niveau des boss. Les niveaux sont originaux dans le sens où, suivant certaines étapes du niveau, en fait, tu vas devoir mettre à contribution ton module que tu as devant toi, là, pour soit le lancer à certains endroits particuliers, le rappeler, ou te l'envoyer derrière toi. En fait. Tu peux le greffer derrière toi pour que tu aies un tir qui soit mis à l'arrière. Donc tu jongles avec ça, et tout le principe du jeu, qui était déjà là dans le jeu original, c'était de respecter ça, de le mettre au bon moment, au bon endroit, en fonction du niveau. Là où je suis un petit peu plus dubitatif, c'est sur la précision du gameplay.
Aïe.
Au niveau des hitbox, donc qui est le cœur du jeu dans les shoot'em up, c'est-à-dire que la zone dans laquelle tu vas te faire toucher, j'ai été parfois surpris de certains tirs, de certaines pertes de vie, on peut le dire, puisqu'en fait, tu n'as qu'une seule vie qui te fait toucher, tu meurs. Enfin, tu n'as qu'une seule vie, ton vaisseau n'a qu'une seule.
Un seul point de vie, qu'une seule fois.
Un seul point de vie, merci. Et après, tu as 3 vies, tu peux recommencer. Et après, c'est le game over fatidique. Tu peux recommencer au début. La hitbox me semble moins précise que ce que j'ai pu avoir. Et pourtant, je suis fan de la licence et j'aime bien les shoot'em up de manière générale. J'étais un peu en manque aussi hein, de ce type de jeu en ce moment. Pour ça que j'ai sauté sur l'occasion.
Ouais, je pense que c'est à
donc
ça
un peu dubitatif là-dessus.
C'est le genre de jeu, excuse-moi, je t'interromps, mais c'est le genre de jeu qui va parler aux gens qui connaissaient déjà le style et peut-être même le titre R-Type. J'imagine que c'est pas vraiment un jeu qu'on va conseiller à quelqu'un qui n'est pas déjà intéressé par ce genre de jeu, quoi. C'est pas genre, oh, regarde, ou peut-être comme un trip nostalgique,
Si je reprends l'échelle de notation Patrick dans Positron, je dirais que c'est pour les fans, si c'est ça.
Ouais. C'est pas pour tout le monde, quoi. C'est pas un jeu qui transcende son genre et qui va être conseillable à tout le monde. Et quand tu dis pour les fans, le truc, c'est que les fans de R-Type, je suis sûr qu'il y en a... Enfin, les fans de R-Type, pas les gens qui connaissent R-Type. C'est deux groupes différents, tu vois. Les gens qui connaissent R-Type, il y en a peut-être beaucoup. Les fans de R-Type, moi, quand je regarde le gameplay, j'ai vraiment l'impression que, oui, ils sont... le déplacement du vaisseau est hyper lent. Enfin, c'est sympa, R-Type, mais c'est vraiment R-Type, quoi. On est dans R-Type d'il y a 30 ans.
Ouais, tu peux le régler. C'est-à-dire que tu as 4 modes de vitesse que tu peux changer à tout moment via une touche dedans. Donc là, effectivement, sur la vidéo que tu diffuses, ils ont pris, je pense, la vitesse numéro 1.
Ouais, moi, je joue en général... Pour pas faire paniquer les gens. Ouais.
À 3 sur 4. C'est pas un shoot'em up, c'est pas un bullet hell, hein, donc t'as pas des petites boulettes partout sur l'écran où il faut tout éviter. C'est vraiment, il faut lire l'écran, bien te positionner et vraiment jouer avec ton module complémentaire pour l'envoyer le réceptionner au bon endroit.
Mais du coup, tu retrouves au final pas trop les sensations d'un R-Type à l'ancienne.
Alors, si, parce que oui et non. C'est-à-dire que le niveau de la précision du gameplay, non. Au niveau de la façon dont tu vas contrôler ton vaisseau et jouer avec ton module, qui s'appelle la Force, d'ailleurs, tu le retrouves bien. Les boss aussi sont bien. Mais la précision du gameplay laisse un peu à désirer. Et bon. Là où je confirme aussi, pour les fans, c'est que le tarif aussi est un peu élevé, je trouve, par rapport à ce type de jeu, et surtout par rapport au contenu qu'il y a dedans. Donc, il a 39,99, 40 euros à peu près. Ce qui est assez élevé, je trouve, pour...
40 euros.
Ouais, 40 euros. Ouais.
C'est énorme. Moi, j'aurais dit 20 euros, quoi.
Ben oui, je pense que c'est ça. Alors, 20 euros, c'est si tu veux l'extension, parce que tu as un pass pour avoir des niveaux supplémentaires après.
Ouais, un season... Ouais, non, c'est même pas un season pass, du coup.
Un level pass, je sais pas. Ouais, c'est un DLC.
Ouais. Ah ouais, donc 60 euros pour le jeu complet, quoi.
Nicolas Poppy nous dit dans la chatroom, c'est un peu comme Battletoad, il joue sur la nostalgie mais la technique n'est pas là. J'ai l'impression qu'on est... Enfin, Battletoad avait l'air encore moins inspiré et c'était presque... Battletoad, c'est presque un mime, qu'il n'y avait pas grand-chose derrière parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vrais fans de Battletoad. C'était juste qu'il y avait Phil Spencer qui arrivait avec un t-shirt Battletoad à une présentation de l'E3 et les gens... Enfin bref, c'est peut-être pas à ce point-là, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas dans un registre complètement différent non plus, quoi.
Le truc, c'est que pour un shoot 'em up, avoir un problème de précision, ouais, c'est quand même un peu embêtant.
C'est sûr. Ok, bah écoute, merci pour ce petit topo sur R-Type Final 2. Malheureusement, peut-être pas. Comme quelqu'un le disait un petit peu plus tôt, peut-être qu'il faut attendre qu'il arrive dans le Game Pass, on va dire, quelque chose comme ça. On va passer à quelques dates et annonces diverses. Un truc intéressant, Lost Judgment a été annoncé pour le 24 septembre. Il arrive sur PlayStation et Xbox. Lost Judgment, vous savez, c'est ce spin-off de la série Yakuza un petit peu plus sérieux, qui lui restera en combat action, combat bah, d'action beat'em up, alors que Yakuza va continuer dans sa direction combat tour par tour, avec il a inauguré avec le 6 ou le 7. Burning Crusade classique arrive le 1er juin pour les fans de cette idée, elle sera là. Et on a un nouveau trailer pour New World, qui est le jeu d'Amazon. Alors, je ne sais pas lequel de ces trucs vous inspire le plus. J'imagine que sur Burning Crusade Classic, il n'y a pas énormément de choses à dire. Mais si je vous demande entre Lost Judgment et New World, est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent à tous les deux, vous, celui qui veut peut prendre la parole, comme ça, sans rien de me demander.
Moi, je D'accord. laisse la main parce qu'il n'y en a aucun qui me parle.
D'accord, ok, très bien. Christophe non plus. Bon, bah écoutez,
je suis embêté.
Pas vraiment.
Ça fait moment que j'aimerais me mettre à la série Yakuza, mais je trouve pas le temps parce que je sais que c'est long, mais sinon. Long. Alors,
bah, tu sais, Judgment en fait a été particulièrement bien reçu. Et c'est une série qui est donc dans le même contexte, c'est un spin-off hein, de la série Yakuza. Et Judgment a été très bien reçu. Et le trailer, qui est très long, hein, de Lost Judgment, qui est donc le 2, est assez, comment dire, intriguant, vraiment, au niveau de la dramaturgie du truc. Et ils sont malins, hein, parce qu'ils reprennent le setting de Yakuza. Oui, de Yakuza 7, en fait, de Yokohama. Yakuza 7 se passait dans Yokohama. Donc là, ils vont utiliser les décors de Yokohama pour l'autre série, pour la série Judgment. Et c'est peut-être un bon moyen de se lancer dans la série, parce que c'est, d'après ce que j'ai compris, une vraie réussite, Judgment. Et c'est complètement séparé de la série Yakuza. Enfin, on peut tout à fait y jouer sans avoir joué à Yakuza. Mais bon, ça ouais. prend quand même beaucoup de temps. Hein. C'est plusieurs dizaines d'heures. Donc,
Ah, j'ai des potes qui sont fans absolus de cette saga qui me disent qu'il faut absolument que j'y joue.
Je peux comprendre. Bah, écoutez, oui.
Est-ce qu'ils ont gardé, parce que j'en entends beaucoup parler aussi, est-ce qu'ils ont gardé ces... ça c'est action-aventure, ils sont toujours dans ce genre de jeu.
Ouais, tout à fait. Avec un ton un petit peu plus oui.
Mais du coup, est-ce que tu as une partie simulation de vie aussi toujours dedans?
Oui.
Toujours conservé ça.
Alors, je suis pas un expert, hein, mais d'après ce que je comprends, oui. D'ailleurs, on le voit dans les screenshots. Il y a le héros qui fait du skateboard. Il a des jeux de rythme. À un moment, il fait de la boxe. Donc, il y a plein d'activités annexes comme dans la série originelle. Donc,
d'accord, donc oui, ils ont conservé ça.
Ouais.
Et qui servent juste à passer du temps en fait, dans le jeu. Ça ne sert pas à proprement parler l'histoire du jeu dans sa globalité. Ça fait partie de l'ambiance et du lore du jeu.
Oui. Bah, comme dans tous ces jeux-là, hein. C'est exactement ça. Ouais. Et l'autre truc, donc, c'est New World, qui est notable parce que c'est un jeu Amazon. Amazon qui a eu des mésaventures sur lesquelles on va pas revenir dans le domaine des jeux vidéo. Mais c'est un MMO, c'est un vrai MMO à l'ancienne, comme on faisait les MMO. Très, très beau. Il est vraiment graphiquement impressionnant, ou en tout cas dans le trailer qu'ils ont concocté. Mais je suis sceptique parce que, sans avoir beaucoup investigué la chose, ça a l'air d'être vraiment... un MMO, comme on entendait MMO, genre au début du succès de World of Warcraft, ou peut-être encore au début des années 2010. Et je ne sais pas si... Enfin, je suis sûr qu'il y a un public pour ces jeux, il y a beaucoup de gens qui y jouent encore, mais je ne sais pas, je suis dubitatif, on va dire.
Je te rejoins complètement. En plus, je trouve que cette bande-annonce, mais elle n'est pas sexy du tout. J'ai l'impression de voir une bande-annonce pour un Dragon Age il y a 10 ans, quoi. Enfin... Mm. Là, je comprends pas trop quoi. Et effectivement, se lancer dans le MMO, enfin, je. Ouais. Ok.
C'est un choix bizarre. C'est vraiment un choix bizarre. En plus, le contexte, je ne sais pas, c'est pas... Je sais que c'est terrible parce que je suis le premier à dire... Non, je ne suis même pas vraiment le premier à dire ça, mais il ne faut pas toujours faire de la fantasy ou science-fiction classique. Quand les gens n'ont pas d'inventivité, c'est un peu... Tu vois, c'est retomber toujours sur les poncifs des elfes, des nains qui ne s'aiment pas, et puis des orques et des machins. C'est un peu relou. Là, ils font quelque chose de différent. Et je vois ça et je me dis... Ah ouais, mais ça a l'air chiant, quoi. Enfin, je sais pas, ça a l'air... C'est difficile à exprimer. Tout a l'air... L'emballage a l'air d'être ce qu'on pourrait vouloir, mais ça fonctionne pas, ça prend pas. Sur le trailer, en tout cas, ça trouve le jeu sera génial, mais moi, ça me parle pas. Donc,
Bah, je pense que déjà, un trailer qui vend pas du rêve... Je connais pas beaucoup de jeux où le trailer vendait pas du rêve et où le jeu était génial derrière. Ouais. Hein.
C'est vrai, c'est vrai. Ça peut arriver.
En général, c'est plutôt l'inverse qui se passe.
On est d'accord. Bon, donc voilà pour les dates et les annonces. On a du côté de Stadia, les studios Stadia qui se délitent complètement. Hein. Il y a plein de gens qui quittent Stadia, mais c'était pas inattendu, et qui rejoignent Haven Studios, le studio de...
Jade Raymond,
comme on le disait tout à l'heure, tout à fait. On a eu dans le procès de Apple et Epic l'information que Fortnite sur Android ne représente que 0,5% des revenus de Fortnite, que ça ne fait pas d'argent sur Android. Ça explique peut-être pourquoi Epic est tellement remonté contre Apple et ne fait pas tellement de bruit contre Google, même si les problèmes sont en théorie similaires. Il y a un utilisateur aux États-Unis qui fait un procès contre Sony, pour les mêmes raisons que le procès contre Apple, en fait, on s'attendait à le voir venir. Le store est considéré par cette personne comme un monopole. Et ça ne serait pas vraiment notable en soi, parce que quelqu'un qui essaye de lancer un procès class action lawsuit, comme ça, bon, bah, c'est pas si notable, mais il y a une base qui est que Sony a arrêté d'autoriser la vente de codes par des magasins de tierce partie qui fonctionnaient sur des codes qui fonctionneraient sur PlayStation Store. C'est-à-dire qu'il fut une époque où on avait des codes qui pouvaient être vendus, pas juste des codes pour avoir du crédit sur le store, hein, mais des codes, si je comprends bien le procès, de jeu, ce genre de choses. Ils n'ont plus eu le droit de les vendre, les retailers comme les grands magasins, etc., ou les boutiques spécialisées. Et donc, est-ce que ça pourrait donner quelque chose ? On ne sait pas, mais on s'imaginait que suite aux discussions sur le monopole des stores, ça pourrait arriver pour le monde des consoles aussi. Et bien là, ça pourrait être le début de ça. Et enfin...
Ils n'avaient pas fait un deal avec GameStop, je crois, pour la distribution de la PlayStation 5 Digital Edition, justement, pour
qu'ils puissent l'avant. C'était avec Microsoft. Ils avaient fait un deal avec Microsoft. Ils avaient fait un deal qui permettait à GameStop de récupérer une partie des revenus la vie de la Xbox Series S.
C'était la SAD.
Ouais.
Ouais.
Ou la... Non, c'est pas la série S, t'as raison, c'était la Xbox SAD ou je sais plus. Enfin bref, en tout cas, c'est pas avec Sony. Donc, et puis ça serait autre chose, c'est pas la même chose que de vendre des codes qui est en fait de vendre des jeux sur le store. Mais bon, et l'autre chose à noter, c'est que Sony a annoncé que malgré l'augmentation des capacités de production sensibles qu'ils espéraient pour l'année à venir, ils pensaient que la demande allait être si forte que la console allait continuer à être difficile à trouver pour les joueurs qui en cherchent possiblement pendant encore un an. Et on sait qu'ils travaillent sur un redesign de la console déjà pour pouvoir en produire. Alors, je ne sais pas exactement comment ça va fonctionner parce que est-ce qu'ils vont utiliser des composants moins utilisés qui seraient du coup en fait moins performants mais qu'il faudrait plus refroidir, qui serait une sorte de PlayStation 5 un peu plus cheap, enfin cheap dans le sens où c'est pas aussi dernière génération. On ne sait pas très bien, mais ça leur pose un vrai problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des PlayStation et qui voudraient en acheter et qui n'arrivent pas à donner leur argent à Sony parce qu'il n'y a pas assez de consoles sur le marché. Évidemment, c'est un problème pour Sony. Un bon problème à avoir.
Problème de riche, oui.
Ouais. c'est pas le cas pour le rendez-vous jeu. Hein. Si vous voulez vous abonner au Patreon du rendez-vous jeu, il y en a autant que vous voulez. Autant que vous voulez, il n'y a pas de rupture de stock. On a aussi des informations du côté de la réalité virtuelle. HTC a annoncé son HTC Vive Pro 2 et son HTC Vive Focus 3. Alors, ils sont un petit peu similaires, les deux casques, sauf que le Focus est en fait entièrement sans fil et le Pro est avec fil. Il coûte un petit peu moins cher dans le cadre du Pro et il est plutôt destiné aux gamers. C'est un truc haut de gamme, c'est autour de $800. Il sort le 4 juin, donc on concurrence les casques un petit peu chers sur PC. Ils ont tous les deux une grosse résolution. Hein. On est en 5K divisé entre les deux yeux. On a un champ de... un field of view de 120 degrés, on a 120 Hz de taux de rafraîchissement pour le Pro et 90 pour le Focus. Enfin bref, c'est des machines assez chères, mais la VR continue à être active, on va dire. Donc le Pro sort le 4 juin pour $800, le Focus le 27 juin pour $1,300. Évidemment, la version entièrement sans fil est un petit peu plus chère. Elle est destinée à des utilisations plus professionnelles.
Ça fait cher pour jouer à Beat Saber, hein, tout ça.
Ça, ouais, c'est sûr, clair. C'est sûr.
Mais du coup, la version sans fil, tu es quand même obligé de te plugger à ton PC ou c'est un PC embarqué dans...
Il n'est pas autonome.
Il
est connecté sans fil à un PC qui fait tout le calcul.
Ouais, donc en plus de 1 300 €. Bon, après, tu peux avoir un vieux PC, j'imagine, vu que tout est embarqué. Ah non, le PC
Le calcul est fait sur le PC, oui.
Ah d'accord, je pensais que le calcul était fait dans le casque comme...
comme le Quest. Ouais. C'est pas le cas. Tu me le confirmes, hein, Christophe, c'est un truc qui est branché sur le PC.
Alors, si c'est sans fil, alors il y en a peut-être un des deux, je suis en train de regarder.
Alors, attends, je suis en train de te dire une bêtise. Le Focus est un standalone, complètement standalone.
Voilà. Ah, voilà, ok, je comprends. Comme le Quest, quoi. Du coup.
Comme le Quest.
Le Focus, c'est un concurrent du Quest.
Ouais.
Mais donc, du coup, là, t'as pas besoin. Est-ce que t'as quand même besoin de te brancher, enfin, d'être connecté à un PC pour l'aspect OS, on va dire pouvoir
Non, il doit avoir un système Android dessus. Je t'avoue, je ne sais pas quel OS c'est dessus. Je suis sûr que c'est un Android, hein, ça ne peut pas vraiment être autre chose. Mais du coup, quels sont les applications disponibles dessus
Parce que potentiellement, ça peut remplacer un PC, mais du coup, bon, c'est 1 300 € pour jouer une bibliothèque de jeux exclusive.
Et on peut le connecter aussi au PC si on le souhaite. Mais...
Ouais, c'est un concurrent direct du Quest. La question, c'est si c'est pas Android, il va falloir qu'ils mettent toute une plateforme en avant, créer un store, appeler les développeurs pour qu'ils publient dessus. Enfin, c'est pas.
Ouais, c'est pas trivial. Mais c'est pour ça qu'ils le destinent aux pros avant tout, parce que c'est des applications spécialisées, tu vois.
Ouais, parce que c'est pas non plus le même budget que le Quest. Hein.
C'est sûr. Il n'y a pas Facebook, mais je vois déjà les réactions des gens. Ah, un casque sans Facebook, un casque sans fil sans Facebook. OK, mais tu n'as pas non plus les applications. Peut-être qu'ils utilisent... Enfin, je ne sais pas. Il faudrait qu'on se plonge un petit peu plus sur le sujet. Là, on n'a vu que les aspects matériels. Et à propos d'aspect matériel, il y a aussi des détails qui commencent à leaker sur le PSVR 2 qui aurait une résolution de 2000 par 2040 pixels par œil, donc quelque chose d'assez important, une grosse résolution. Il y aurait bien sûr du tracking inside out pour qu'on n'ait pas besoin de caméra externe pour traquer vos mouvements, retour haptique sur le casque lui-même, ce qui pourrait être intéressant aussi. Avoir commencé à utiliser.
Cognes, mais... Quand tu te cognes, t'as la tête qui vibre.
Bah, au jeu de boxe, c'est parfait.
Mais je peux imaginer, tu sais, s'il y a, je sais pas, genre 8 moteurs dans l'arceau du casque qui peuvent t'indiquer des choses, ça peut être un retour physique intéressant.
On avait le syndrome du bébé secoué, maintenant on aura le syndrome du gamer secoué.
Ouais, bon, à mon avis, ce n'est pas très puissant non plus, hein, faut pas exagérer. Il y a aussi du foveated rendering, du rendu fauvé, c'est-à-dire en gros, il fait un rendu, comme tu as du tracking de ton œil à l'intérieur, il peut rendre plus finement la partie, le centre de ton champ de vision. Et ça aide beaucoup à avoir une image plus fine, sans avoir à rendre l'ensemble de l'image, à rendre au sens graphique du terme, l'ensemble de l'image à cette finesse. C'est une technique de rendu qui est particulièrement utile dans la réalité virtuelle, qui serait, semble-t-il, utilisée dans le casque de la PlayStation, le deuxième casque de la PlayStation.
Et là encore, c'est-à-dire que c'est un travail que le développeur doit faire. C'est vrai que le casque le supporte, mais il ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'il faut que le jeu derrière prenne ça en compte. Donc,
bah, ça peut être le moteur, à la limite. Hein. Si le moteur de développement est bien foutu, si les outils de développement sont bien foutus, la machine sait où tu regardes et elle peut dire dans la zone, dans l'environnement en 3D, on ne va rendre à cette finesse que la partie qui est ciblée par la pupille, enfin par l'œil. Peut-être que ça peut être fait de manière automatique, j'imagine, mais...
Oui, tu as fait raison. Peut-être que Unreal Engine et consorts doivent prendre ça en compte d'une manière ou d'une autre.
C'est ça. Et on sait que que Sony a investi dans Unreal Engine 5, dans Epic. Donc peut-être qu'ils peuvent dire « Vous ne pourriez pas mettre ça dans Unreal Engine ?» Ça serait cool. Et enfin, les news qui restent. On a d'une part Namco, Sega et Square qui ont annoncé qu'ils seront présents pour l'E3 2021 dans un mois à peine, rendez-vous compte, ça arrive. Et on a aussi la QuakeCon qui a été annoncée pour le 19 au 21 août. J'en parlerai pas forcément, si ce n'est que on doit se rendre compte aujourd'hui que la QuakeCon, c'est un événement Microsoft, puisque id Software fait partie. C'est pour ça que j'en parle. La QuakeCon, elle est là tous les ans, c'est pas si notable que ça. Mais id fait partie de Bethesda, enfin, fait partie de ZeniMax, qui a été racheté par Microsoft. Donc la QuakeCon est un événement Microsoft. Notable.
Ah là là. Moi, je suis resté bloqué à Quake 3, je dois t'avouer.
Écoute. Il y avait quand même Doom 2016 qui valait le coup. Hein, Doom 2016-2018. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Mais à part si on compte Wolfenstein, bien sûr, qui, pour le coup, était une vraie réussite aussi. Il y a eu des choses, hein, mais pas de Quake. Peut-être qu'il y aurait un nouveau Quake, ça serait intéressant.
Ils ont raté le virage de ces FPS multi-online.
Ouais, c'est dommage parce que...
Ouais, j'avais fait un Quake Champion, ouais.
Je jouais beaucoup avec Quake 3 Arena de l'époque des salles de jeux en réseau. J'en garde des souvenirs émoustillés.
Exactement.
C'est vrai, ils avaient... Mais il y avait eu un Quake... Oui, c'est Quake Champions auquel j'avais joué
un petit Quake peu. Oui, Quake Champions. Pas... On avait pas essayé du coup avec mon compère. Mon compère Charlie, c'était pas...
Ouf. Ouais. Bon, en tout cas, il n'a pas laissé une grande impression sur l'industrie, on va dire. Quoi d'autre ? Un dernier truc que je voulais évoquer, c'est un travail qui a été fait par Intel, les laboratoires d'Intel, pour appliquer par intelligence artificielle un rendu photoréaliste au moteur de GTA V. C'est-à-dire qu'on montre GTA V, on le fait passer par un moteur de deep learning. Et on transforme les images en temps réel de GTA V en images photoréalistes. Vous savez quoi ? C'est malade. C'est complètement fou. Dans leur vidéo que je vous encourage à aller chercher, si vous cherchez AI GTA V Intel, vous allez trouver tout de suite la vidéo de description qui montre ça. Mais c'est un truc de folie. On a l'image de GTA V qui date pas d'hier, hein, qui est l'image de GTA V qu'on connaît. Quand ils le passent par leur filtre, en temps réel, encore une fois, alors la fréquence d'affichage est un tout petit peu plus basse, on doit être quelque chose comme 15-20 images secondes. Ouais. Mais
quand même, c'est-à-dire que ce type de technique, on l'a beaucoup vu dans les années passées sur les images fixes, en fait, sur la partie IA. Et le deep learning, on appelle, c'est du transfert de style. C'est-à-dire que tu prends une image, t'entraînes ton IA sur un paquet d'images qui ont un certain style. Du coup, elle va comprendre ce style-là et après, tu vas pouvoir le transférer, l'appliquer sur d'autres images. Mais ça se fait, en général, avec des grosses puissances de calcul et pas en temps réel. Là, on est quand même... Le rendu est très bon, mais en plus, il arrive à le faire en cours de jeu. Donc oui, t'as un framerate qui est relativement bas, mais quand même, faut regarder derrière la puissance de calcul qu'il faut pour faire ça. C'est impressionnant à ce niveau-là. Oui,
ouais, vraiment. Alors, je ne sais pas quelle puissance de calcul ça demande. J'imagine que ce n'est pas trivial, effectivement. Mais il montre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il montre les différentes techniques qui existaient avant. Tu disais que ça s'est beaucoup vu sur les images fixes. Ça existait aussi sur les images animées. Il y avait différentes techniques. Et il y avait toujours des artefacts de rendu. Il y avait toujours des trucs qui étaient pas, qui fonctionnaient pas, quoi, comme on peut les imaginer. Là, je ne vais pas dire que c'est parfait, mais c'est vraiment, vraiment... c'est presque parfait, on va dire. Et en fonction de la puissance nécessaire pour faire un truc comme ça, ça peut être une technique de rendu qui pourrait être utilisée à terme pour d'autres choses, pour des jeux peut-être, pourquoi pas. Tu calcules ton jeu en aussi photoréaliste que tu peux décemment le faire avec ta machine, avec ton moteur de rendu. Et puis, tu passes une couche d'intelligence artificielle dessus, de deep learning, de transfert de style, comme tu le disais, et le jeu devient photoréaliste. C'est assez incroyable.
Tu peux même aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que tu peux imaginer que, en fait, tu fais un rendu de jeu qui est basique à la rigueur. Tu rends que les polygones, enfin des trucs très, très simples. Et derrière, tu appliques différents styles. C'est-à-dire que tu peux de ton jeu différentes formes, voire même l'adapter en cours de jeu, transformer d'un jeu vers un autre, etc. Ça peut ouvrir des champs des possibles assez intéressants d'un point de vue artistique en termes de jeu et de rendu. Ouais.
Tout à fait. Alors, à voir effectivement combien de puissance de calcul ça demande. Peut-être qu'il y a des choses plus stylisées qui pourraient demander moins de puissance de calcul et être utilisées ensuite comme des filtres appliqués au rendu, quoi, comme ça se fait déjà, mais par une méthode différente.
Sachant que c'est les mêmes hardware qui font ce rendu-là. En général, c'est les cartes graphiques qui font ce calcul-là. Donc, si tu réduis la voilure... je vais reprendre ton exemple avec les Lego, les Duplo. Tu vois, si tu prends moins de Duplo pour faire des rendus 3D haute définition, mais que tu les utilises pour faire tourner de l'IA qui fait du rendu ailleurs, il y a peut-être moyen de contrebalancer ça avec un hardware déjà existant. Là.
Tout à fait. Et voilà, c'est tout pour cet épisode du Rendez-vous Jeu. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On a eu quand même quelques bonnes petites discussions. Hein. C'était fort sympathique. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver avant qu'on ne se quitte, si les auditeurs en veulent plus? Je dis avant qu'on ne se quitte, mais pour les gens qui font partie des Patriotes, on a quand même l'after show qui arrive avec nos discussions sur le 3. J'espère que les Patriotes seront nombreux à prendre part à cette discussion. Mais donc, Escarina, on va commencer... Honneur aux dames, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, dis-moi? Il faut se démuter hein, pour parler, c'est beaucoup mieux. Alors Christophe, vas-y, puisque clairement...
C'est en effet beaucoup mieux. Non, en plus, j'étais en train de dire que déjà, ça me faisait super plaisir de te retrouver, Patrick. Désolée. Oui, c'est toujours le problème. Hein. Quand on n'est pas seul à la maison, on a tendance à se mettre en mute assez facilement. Et quand on oublie, c'est pas très pratique. Donc, on me retrouve ici tous les deuxièmes jeudis du mois. Sur Twitter, @escarina_, sur Kiss My Geek et sur Super Gamerside. Voilà.
Magnifique, merci beaucoup Escarina d'avoir été avec nous. Et Christophe, où es-tu sur l'internet?
Alors j'essaie de faire aussi vite qu'Esca parce qu'elle est rodée, je le vois. Donc sur Twitter c'est Chris Kamikas, sur YouTube ça va être dans Retro Gaming Bros, l'émission sur le rétro gaming qu'on fait une fois par mois avec mes compères Charlie. Super, c'est ça. Instagram, pareil, à ton Gaming Bros. Et après, plus généralement, sur Studio Renegade, donc Twitch, Studio Renegade. Il y a plein d'autres émissions, j'y suis dans quelques-unes. Venez nous voir, voilà.
Magnifique, merci beaucoup, Christophe. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, à peu près partout, hein, vous le savez. J'anime le Rendez-vous Tech et le Rendez-vous Jeu. On est en podcast à peu près partout, dans toutes les bonnes crèmeries de podcast. On est aussi en live sur Twitch les mardis et jeudis à midi. En tout cas, c'est ce que j'espère faire. On verra en fonction des urgences des différents enfants comment on peut gérer ça. Mais pour le moment, ça a l'air de fonctionner. Et bien sûr, si vous appréciez l'émission, vous pouvez la soutenir financièrement sur Patreon, patreon.com/rdvjeux. Si vous attendiez la fin de l'émission, c'est le moment. Vous pouvez aller sur le lien qui est dans les notes de l'émission. Et ça vous envoie directement vers le Patreon. Dans lequel vous pouvez donner un petit euro, deux petits euros, presque rien, une petite somme qui fait beaucoup, beaucoup pour moi. Ça se fait en 2 minutes sur votre portable ou sur votre ordinateur. Quand vous arrivez à la maison, cling, Patrick, quand vous mettez les clés dans le bol, vous connaissez tout ça maintenant. C'est encore plus important que de cliquer sur s'abonner et sur la cloche sur YouTube. C'est cling, Patrick et Patreon. Je vous remercie à tous de participer. Pour ceux qui sont, qui écoute sur le flux privé, on a l'after show qui arrive tout de suite. Et pour tous les autres, on se donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous!
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.